Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. C'est le Énerver la suite, France Inter Plus de Léonard de Vinci. Le Louvre lui consacre une exposition événement et bien le nouveau rendez-vous surexpose toute cette semaine l'artiste en crevant la toile de nos archives. Ce soir, chronique sauvage du 25 mars 1988, l'affaire de la Flora. Petit rappel, en 1908, au Kaiser Museum de Berlin, une œuvre, une sculpture de Léonard de Vinci est exposée. C'est le buste de la Flora acheté à un antiquaire londonien. Mais rapidement, une grande rumeur. Ce buste de la Flora serait un faux. L'affaire devient un vrai scandale en ce début de XXe siècle en Allemagne. Eh bien, Robert Arnault s'est emparé, en 1988, de cette histoire et a mis tout son talent de conteur détective pour démêler le vrai du faux. France Inter, plus de Léonard de Vinci, soirée mystère sur France Inter.
« 17 septembre 1908. Nous sommes au Kaiser Museum de Berlin. La foule cosmopolite se presse dans la salle spécialement aménagée pour l'événement artistique du siècle. Au milieu de la salle, entouré d'un cordon de sécurité, une œuvre, une seule, une sculpture, un buste. La Flora de Léonard de Vinci, l'une des rares sculptures du maître de la Renaissance, une merveille. » La noblesse, l'attitude, l'expression, la grâce de cette femme au sourire énigmatique sortent de la main ni d'un artiste ni d'un homme de science, mais d'un magicien. Le drapé, la couronne de fleurs, le modelé des seins, tout est sublime. Baude, le conservateur du musée, est un homme heureux. Grâce à l'un de ses rabatteurs anglais, il a pu acheter ce chef-d'œuvre à un antiquaire londonien. 160 000 marks, une somme. L'acquisition n'a pas été faite à la seule initiative de Baude, évidemment. Nous avons sous les yeux le rapport de la commission qui a pris la décision. Je lis. Monsieur Murray Marx, de Londres, offre à la vente un grand buste en cire de jeune femme à demi dénudée, attribué à Léonard de Vinci. À l'unanimité, la commission se déclare favorable à l'achat et tient l'acquisition pour un enrichissement inestimable de nos collections. Oui. Le Kaiser et l'Allemagne peuvent être reconnaissants à Baude. Pendant des semaines, les Berlinois défilent devant la Flora, déposent devant elle des brassées de fleurs. Les critiques sont à court de superlatifs. Et puis, soudain...
La Flora du musée de Berlin est un faux. Demandez l'Illustrated London News.
Les plus grands experts allemands victimes d'un canular. Lisez le Times.
La Flora de Léonard de Vinci n'a que 62 ans. Le Kaiser Museum ridiculisé.
160 000 marques pour un faux. Lisez l'affaire de la Flora.
C'est absolument impossible, des ragots, des rumeurs lancées par des jaloux. Nous pouvions nous en douter. Je sais d'où le coup est parti. Il vient de Brême. Von Pauli est malade à l'idée que la Flora est désormais chez nous.
N'empêche qu'après ce qui vient d'être annoncé par voie officielle, tous les experts du monde ont dressé l'oreille. Certains même ricanent. Un commissaire priseur de Southampton affirme que cette œuvre, qu'il a adjugée lui-même, a été sculptée par le copiste-restaurateur Lucas en 1846.
C'est une machination, une imposture. Regardez, messieurs, regardez. N'est-ce pas la grâce que Vinci a cherchée toute sa vie ? Souvenez-vous des propos du maître. La terre, l'homme, les plantes et la lumière sont en perpétuelle évolution. Il y a un rapport constant entre la fluidité de la chevelure et l'eau courante. Regardez, messieurs, regardez.
Oui, oui. S'il y avait les bras, les mains, il n'y aurait plus de doute.
Quoi ? Vous n'hésiterez pas à vous faire l'écho de ces ragots auxquels je ne répondrai pas. Doutez-vous de ma parole, Herbert, ou de ma compétence ?
Oh, monsieur Baude, vous le plus grand expert du monde. Je m'honore, vous le savez, d'être à la fois votre ami et votre homme de confiance. C'est pourquoi mon devoir est de vous mettre en garde. L'opinion publique a été ébranlée. Vous devez réagir rapidement.
Soit. Vous êtes mon ami. Prouvez-le. Aidez-moi à démasquer l'imposture. Je vous charge de cette enquête officieuse. Allez à Londres, remuez tout, trouvez. Rapportez-moi la preuve que l'on veut me déshonorer.
Je vous la rapporterai, monsieur.
Ce Southampton, novembre 1908. Une salle des ventes. Le commissaire a terminé son travail. Herbert s'approche de lui.
Mister Coxey ?
Oui.
Herbert Talam, du journal de Hambourg. Je viens à propos de l'affaire de la Flora. Monsieur Bode prétend qu'il s'agit d'une œuvre de Vinci. Mais notre devoir à nous, journalistes, est de faire éclater la vérité au plus tôt. Pouvez-vous me faire un récit détaillé de ce que vous avez raconté à mes confrères anglais et me fournir la preuve de ce que vous affirmez ?
Bien sûr. Le 10 mai 1846, le sculpteur Richard Lucas, un réputé copiste et restaurateur auquel les musées faisaient souvent appel, s'est rendu chez son ami, le marchand de tableaux Buchanan. Celui-ci lui a montré un tableau, la Flora, vraisemblablement de l'école de Léonard, et lui a demandé s'il lui était possible de reproduire ce tableau sous forme de sculpture.
Un faux ?
Non, Buchanan n'était pas malhonnête. Il espérait la vendre très bien. C'est tout. Lucas a accepté et s'est mis au travail. Il a même été aidé par son fils Albert, qui a aujourd'hui 81 ans et qui peut témoigner.
Herbert se rend chez Albert Lucas, un ravissant jardin anglais, et entre deux arbres, un hamac, avec un vieil homme qui se repose et répond aux questions un peu agacées.
Oui, monsieur, ce buste est bien de mon père. Vous faut-il des preuves supplémentaires ? À l'âge de 18 ans, c'est moi qui ai fait la copie du tableau qui a servi de modèle. Ensuite, j'ai été chargé par mon père de sculpter les fleurs qui ornent les cheveux. J'ai travaillé plusieurs semaines. Ensuite, j'ai peint ces fleurs de ma propre main. Cela vous suffit-il ?
Oui. Oui. Comment puis-je vous remercier, monsieur ?
En me laissant dormir, jeune homme. Dans le cas où vous douteriez encore, vous pouvez aller interroger Whitburn. C'est un ami d'enfance qui était toujours chez nous.
Herbert finit par trouver ce témoin sur un terrain de golf. Un vieil homme, encore très alerte, frappe la balle.
Excusez-moi, je suis amateur de golf et j'ai suivi vos exploits, monsieur, toute ma jeunesse. Mais j'aimerais vous parler d'autre chose.
De quoi ?
De sculpture. D'une certaine sculpture qui se trouvait chez Lucas.
Oh, vous vous intéressez à cette affaire, vous aussi ?
Je suis journaliste. Avez-vous vu cette sculpture chez Lucas de son vivant ?
Évidemment, je l'ai vue. J'étais plus souvent chez le Lucas que chez moi.
Vous avez vu Richard Lucas sculpter cette œuvre ?
Bien sûr, d'après un tableau.
Celui-ci ?
Précisément.
Monsieur Whitburn, Il s'agit d'une histoire vieille de 60 ans. Vous êtes certain que votre mémoire ne vous trahit pas?
Monsieur, cette année-là, j'ai gagné tous les tournois et la municipalité de St. Andrews me présenta les clés de la cité en me faisant citoyen d'honneur. Et savez-vous ce que ce titre confère? Le droit de chasser le lapin à l'intérieur de la ville et de faire sécher du linge sur le terrain de golf. Seul le duc de Windsor a ce privilège.
L'affaire de la Flora, Lisez le Times.
La Flore est-elle de Léonard de Vinci?
L'Angleterre contre Kaiser Museum.
Humiliation du musée de Berlin.
Les experts allemands dupés, le public paie pour voir un fou.
Les journaux européens poursuivent leur campagne. La Flora est-elle une œuvre de Vinci? Monsieur Jean-René Gabory, vous êtes conservateur en chef du département des sculptures au Louvre. Comment peut-on imaginer qu'il y a 80 ans tout juste, des experts comme Broad aient pu se tromper à ce point-là?
Dans le cas d'un nom comme celui de Léonard de Vinci, qui est un nom un peu magique, si vous voulez, comme celui de Michel-Ange, de Rembrandt, du Titien, peut-être, évidemment, l'espoir, le désir de voir réapparaître l'œuvre inconnue, l'œuvre qui aura échappé à tout le monde, est très grand chez les historiens d'art, chez les conservateurs de musées, chez les collectionneurs, lâchons-le moi aussi, chez les marchands. C'est-à-dire, c'est un sentiment assez humain. À cela s'ajoutait certainement l'idée que, c'est-à-dire la recherche de la sculpture perdue de Léonard de Vinci, c'est-à-dire de toute une branche de son activité que l'on ne connaissait plus que par des témoignages indirects. Alors, ces deux phénomènes peuvent, lâchons le mot, de temps en temps, atténuer, voire même disparaître, faire disparaître, le sentiment, le jugement critique, la prudence, même chez les esprits les mieux formés et les mieux tournés.
Baud a convoqué à Berlin les meilleurs experts. Ils tournent autour de la Flora, la regardent à la loupe, comparent les volumes avec d'autres œuvres picturales de Vinci.
Alors, messieurs,
Il est impossible que ce buste n'ait que 63 ans.
Il me faut des certitudes. Peut-on, oui ou non, déterminer l'âge de cette sculpture?
Très précisément, non. Mais elle est vieille de plusieurs siècles. Nous sommes formels. Nous sommes à peu près certains qu'il s'agit d'une œuvre du maître.
Monsieur Jean-René Gabory, pourquoi tant d'hésitation, de tergiversation? Pourquoi tant de prudence?
Je crois que pour bien comprendre l'affaire de la Flora, il faut se souvenir que dans l'histoire de l'art, il y a quelque chose qui est à la fois comme une lacune et comme une certitude. C'est l'œuvre de Léonard de Vinci comme sculpteur. On sait par des textes, par des témoignages, par des documents parfois très précis que Léonard de Vinci a sculpté, et il est évidemment assez frustrant pour les historiens d'art que cette œuvre sculptée d'un des plus grands artistes de la Renaissance et même de tous les temps nous échappe à peu près totalement. Aussi, lorsque, effectivement, au début du XXe siècle, le musée de Berlin, avec tout ce que cela pouvait représenter de puissance financière, de science, de prestige, de volonté aussi de s'affirmer comme un des plus grands musées du monde, a annoncé qu'il avait découvert et acquis une sculpture de Léonard de Vinci, il y a eu une certaine émotion dans le monde savant. Les acquisitions des musées n'étaient certainement pas aussi médiatisées, comme on dit, qu'elles le sont parfois maintenant, mais quand même, cela a fait un certain bruit. Et naturellement, en même temps que ces bruits sont nés des doutes également, était-il possible que pendant presque 3 siècles, on ait ignoré que Léonard de Vinci avait laissé un chef-d'œuvre en matière de sculpture. Et évidemment, c'est là qu'il y a le premier problème.
Justement, est-ce qu'on lui connaît d'autres œuvres en cire? Est-ce qu'il en a exécuté d'autres, Léonard de Vinci?
La seule œuvre sur laquelle il y ait, je ne dis pas l'unanimité, mais disons une forte majorité d'historiens d'art qui acceptent de mettre le nom de Léonard de Vinci en matière de sculpture, qui est le cavalier de Budapest, est un bronze qui a donc été fondu par un bronzier, mais à partir certainement d'un modèle en cire que l'on peut considérer comme, quoique disparu, une œuvre authentique et originale de Léonard.
Herbert, l'homme de confiance de Baude, se trouve toujours en Angleterre, où il poursuit son enquête. Il retourne à la salle des ventes de Southampton.
Oui, j'ai lu les articles de Baude et des experts allemands. Venez avec moi, monsieur Herbert. Regardez. Regardez bien cette statue. Quel âge lui donnez-vous?
Je ne suis pas un spécialiste.
Quel âge?
Je ne sais pas, un ou deux siècles.
Elle a 43 ans. Mais cette œuvre est restée dans un jardin pendant des années. Les arguments des experts allemands sont puérils. L'âge d'une sculpture ne peut être en rapport avec son état de conservation. Si la flora de Lucas n'est pas parfaite pour son âge, c'est parce qu'elle a été exposée trop longtemps aux intempéries. Pendant des années, j'ai vu ce buste sous une tonnelle.
Chez Lucas?
Chez Lucas.
Il n'y aurait peut-être pas eu d'affaire de la Flora si ce buste avait été en plâtre, prêt pour être fondu en bronze, monsieur Gabory.
C'est là tout le problème, car les modèles en cire pour la fonte ont un certain aspect, et en particulier, par définition, l'artiste qui les exécute se soucie énormément de l'aspect du modelé, mais fort peu du problème de la couleur. Par contre, la Flora de Berlin se présente comme une œuvre définitive, c'est-à-dire qu'elle a des effets de polychromie. Elle a notamment la teinte de toutes les parties nues, est une teinte jaune un petit peu ambrée avec des reflets presque un peu roses, qui se rapproche singulièrement même de la chair naturelle, comme ça arrive souvent dans les sculptures en cire, mais qui, bien entendu, n'aurait pas eu lieu d'être s'il s'agissait d'une œuvre préparatoire à l'exécution d'un autre type de sculpture.
Fin décembre 1908. Maintenant, on ne se demande plus si la Flora est une œuvre de Vinci, mais si Lucas a sculpté la Flora. Son propre fils a-t-il travaillé sur la couronne de fleurs? Les témoins, comme Witburn et le commissaire Priseur, mentent-ils? Pourquoi? Ont-ils eux-mêmes été trompés? À Berlin, Baude presse son agent en Angleterre. Il faut faire cesser ces manœuvres qui n'ont pour but que de déshonorer le Kaiser Museum. Il faut absolument trouver la faille dans la cabale montée par les Anglais. Herbert retourne chez Albert Lucas. Le vieux monsieur le reçoit d'abord avec froideur, puis consent à répondre à ses questions.
Combien de temps votre père a-t-il gardé ce buste de la Flora?
Des années.
Puisqu'il s'agissait d'une commande, pourquoi cette œuvre n'a-t-elle pas été livrée?
Je ne sais pas.
Où était sa place dans la maison?
Quand mon père travaillait, il y avait des sculptures partout. Dans son atelier, dans le salon, dans le couloir. J'en ai même vu à l'office.
Mais la Flora,
Vous vous souvenez de sa place?
Oui, pendant des années, elle est restée ici, dans ce jardin d'hiver.
Donc, parfaitement protégée.
Oh non! Si vous aviez vu cette maison il y a 30 ans, mon père était un artiste. Le confort, le luxe ne l'obsédaient pas. Ceci n'était qu'un hangar où il entassait ses matériaux, ses outils, ses œuvres inachevées.
Il ne tenait pas à sa Flora?
Oh, pour mon père, c'était une œuvre comme les autres. La plupart de ses meilleures copies ont été présentées à l'exposition universelle de 1851. La Flora ne figurait même pas au catalogue.
Ce hangar était-il vétuste?
On l'appelait la Tour des Vents. Je me souviens d'avoir vu des seaux et des bassines qui recueillaient la pluie des gouttières. Je me demande d'ailleurs pourquoi on fait tant d'histoires sur cette affaire. Les experts allemands sont donc si vexés. Ils doutent que mon père soit l'auteur de cette œuvre. Eh bien qu'ils la cassent. À l'intérieur, ils trouveront un chiffon. Un chiffon rouge qui a placé.
Casser la Flora, facile à dire. Jamais les experts allemands ne prendront ce risque. Car si elle est authentique, quel scandale! Non, il n'est pas question de casser la Flora. Mais Herbert semble détenir une pièce à conviction. Dans le hall de Lucas, il y a une photo de la Flora. Cette photo, il la subtilise et les experts de Berlin l'étudient.
Alors ?
La pellicule a été traitée au collodium. Ce procédé était très connu en Angleterre vers les années 1855, mais la préparation du papier albuminé n'a pas été connue avant 1859.
1859. Donc, cette photo n'aurait été prise que 13 ans après la sculpture du buste. Bizarre. Et pourquoi la poitrine est-elle dissimulée par ce morceau d'étoffe? Qu'est-ce qui a bien pu pousser Lucas à voiler ce buste?
Sur la photo, nous n'avons que les deux mains, alors que sur le buste, il n'y en a qu'une. D'ailleurs, la disproportion entre les deux mains est manifeste. Celle-ci est plus grosse, plus lourde. Elle a été rapportée. Cette photographie est un faux.
Elle se trouvait dans la maison de Lucas.
Ben justement. Le fils, Lucas, vous a fait attendre dans ce hall pour que vous la voyiez. Pour que vous la voliez même. Décembre 1908. L'affaire s'envenime. Les journalistes anglais et français semblent faire chorus. Les conservateurs de musées allemands eux-mêmes ne sont pas tous prêts à se ranger du côté de Bode. Le conservateur de Dresde, par exemple, craint que cette affaire de la Flora n'éclipse la superbe exposition qu'il a organisée avec le groupe de peintres Die Brücke. Quant à von Pauli, du musée de Brême, il a carrément pris parti pour les Anglais.
Mon confrère de Berlin, Monsieur Bode, que je respecte et que j'admire, n'a pas eu son flair habituel. Et je le regrette pour lui. Il pense que mon scepticisme est alimenté par je ne sais quelle jalousie professionnelle. Je vous assure qu'il n'en est rien. Il ne serait pas déshonorant que Monsieur Bode reconnaisse son erreur. S'il persiste, au contraire, c'est notre confiance et la confiance du Kaiser qui risque de lui échapper. Il serait bon qu'un véritable ami le lui dise.
Pour vous, il n'y a vraiment aucun doute. La Flora de Berlin n'est pas de Léonard.
Regardez, c'est une copie de tableau qui a servi de modèle pour faire le buste. Il est attribué à Vinci. Le buste est dénudé, le bras est décollé du corps et on retrouve l'index énigmatique de Saint-Jean. Pourquoi le même artiste aurait-il recouvert le buste d'un trapé?
Pour cacher cette nudité.
Non, pas au XVIe siècle.
Regardez les autres personnages de Vinci. En revanche, la pruderie anglaise de 1850 l'exigeait. Et puis regardez bien ce paysage. Le profil correspond à un certain type de beauté anglais.
Vous en concluez ?
Que cette Flora milanaise est une anglaise du siècle dernier et que l'artiste qui l'a sculptée a bien dû rire en pensant à la farce qu'il nous faisait. Mais s'il avait su qu'il duperait M. Baude, en personne, il aurait ri encore plus.
Ne soyez pas désolé, M. Baude. Peut-être faites-vous de cette histoire une affaire trop personnelle.
Quand on perd la confiance de ses confrères et qu'on est sur le point d'être désavoué par son empereur, toute affaire personnelle devient mortelle. Ma vie est suspendue à ce sourire, Herbert. Je vais savoir sous peu si je peux me laisser dévorer par les loups. J'attends les résultats de 3 analyses.
...80 ans plus tard... Ces résultats, nous les avons sous les yeux. Le premier est du professeur Hellman. Je lis. J'ai examiné des fragments de bustes au microscope et j'ai fait une analyse chimique de ces fragments. Les parties découvertes du buste, le cou, la nuque, le visage, étaient à l'origine recouvertes d'un délicat colorant rose chair. Les détails de cette peinture révèlent une technique qui est presque à la détrempe, utilisée en Italie au XVe et XVIe siècle. En ce qui concerne la façon de poser les couleurs, il est clair qu'elles n'ont pas été appliquées avec un pinceau. La pâte a été appliquée directement avec les doigts ou avec un instrument genre spatule. Ce travail est du modelage plus que de la peinture. Cela signifie que l'auteur de ce buste a dû être à la fois un peintre confirmé et un excellent sculpteur. Donc, pour moi, la chose est claire, la peinture du buste témoigne de l'art du vieux maître milanais.
Nous l'y tenons.
Pas encore. Il faudrait pouvoir prouver que la technique de Luca était différente. Si l'on pouvait avoir une œuvre de Luca, et si l'on pouvait en prélever des fragments...
Nous les aurons.
On peut faire confiance à Herbert. Aveuglément dévoué à Baude, il est capable de tout pour faire triompher sa cause. De nouveau, il emprunte l'identité de journaliste et se présente au musée Victoria. Il réussit à circonvenir un conservateur qui le conduit dans les réserves. Il y a des œuvres partout. Et dans un coin, des bustes, des vases, tous de Richard Luca. Parmi ces vases se trouve le fameux vase en cire de Portland. Sous un prétexte quelconque, Herbert oblige le conservateur à s'éloigner un instant et il prélève rapidement des fragments qu'il met dans une petite boîte qu'il empoche. Le tour est joué. On va pouvoir enfin faire des analyses comparatives. Baude fonde un grand espoir sur ces analyses. En 1909, les techniques n'étaient pas encore très poussées. Mais 80 ans plus tard, M. Gabory, est-ce que les techniques actuelles seraient capables d'éclaircir à coup sûr ce mystère ?
Vous savez, les analyses de laboratoire, si elles fournissent des renseignements très très précieux et très utiles, ne donnent pas non plus toutes les réponses. Et surtout, comme c'est le fondement des sciences exactes, on procède par comparaison. Donc, à partir du moment où on ne dispose pas d'éléments de comparaison absolument fiables et nombreux, il est extrêmement difficile à partir d'analyses physico-chimiques de donner une réponse concluante. Nous sommes aperçus qu'on désignait par cire toutes sortes de compositions extrêmement diverses et dans certaines d'ailleurs il n'y avait pas la moindre cire d'abeille, ce qui est évidemment un peu paradoxal, que la mise en œuvre était parfois extrêmement variée selon les artistes et même quelquefois à l'intérieur de l'œuvre d'un même artiste. Et de temps en temps, au niveau du composant, nous nous sommes poser des questions. Par exemple, l'utilisation certains adjuvants, justement, à la cire, que l'on trouve à certaines époques, qui ne semblent pas avoir été utilisés à d'autres époques. Et, par exemple, certaines analyses ont révélé, dans certaines cires italiennes, anciennes, la présence de certains corps chimiques, et surtout d'éléments, qui pouvait faire penser qu'on utilisait de la farine pour renforcer la cire, pour peut-être lutter contre le caractère un peu trop mou de certaines compositions. Bon, je ne sais pas personnellement si on a trouvé des traces de cet adjuvant à l'intérieur de la flore de Berlin.
Janvier 1909. Les laboratoires allemands ont donc maintenant à leur disposition des échantillons du buste de la Flora et des échantillons d'une autre œuvre de Lucas. Et les résultats arrivent. Il n'existe aucune analogie entre la peinture du vase en cire de Lucas et la coloration du buste de Flore, qui est beaucoup plus ancienne.
Bravo. Nous avons de quoi leur clouer le bec.
En attendant, la campagne de presse continue. Et l'empereur commence à trouver la situation déplaisante. Il fait appeler Herbert.
Je n'ai pas voulu intervenir dans cette affaire pour ne point désobliger M. Baude. Mais la diffamation anglaise tourne maintenant à la provocation. A-t-on, oui ou non, en ce début du XXe siècle, les moyens scientifiques pour connaître la provenance d'une œuvre d'art ? À quoi servent les rayons X, par exemple ?
Précisément, Majesté, le buste a fait l'objet d'un examen aux rayons X, mais cet examen n'a pas permis d'aboutir à une conclusion certaine.
La science est donc tenue en échec. Et ce morceau d'étoffe ? Il n'y a pas eu une histoire de morceau d'étoffe ?
Oui, Majesté. Il y avait effectivement un morceau d'étoffe rouge à l'intérieur, fil de coton et fil de lin.
Ça veut dire ?
Rien d'important pour nos recherches.
Je ne veux plus entendre parler de cette affaire. Et je ne veux plus recevoir des flèches de toutes parts. Je ne vais quand même pas déclarer la guerre à l'Angleterre pour le sourire d'une femme en cire.
Devant son hôtel londonien, l'infatigable Herbert est abordé par un jeune homme qui se présente comme étant le majordome de Lady Paget. Il y a une révélation à lui faire. Il l'attire dans un coin.
Jetez un coup d'œil sur ceci, monsieur.
C'est un catalogue de musée ?
Oui, regardez la date.
1823.
Lisez maintenant ce qui est imprimé en haut de la page 3.
Buste de cire de la Flora. Atelier de Léonard de Vinci, appartenant à Sir Thomas Baring.
Ce n'est qu'un document. Melody Paget affirme avoir vu cette œuvre en 1840 chez Lord Palmerston.
En 1840 ? Vous êtes sûr ?
Lady Paget a précisé que c'était quelques jours avant son mariage. Une lady ne peut mentir, monsieur.
6 ans avant que Lucas n'exécute sa prétendue sculpture. Mais alors, Coxey, Withburn mentent quand ils disent qu'ils l'ont vu chez Lucas en 46.
Ils l'ont peut-être vu chez Lucas 6 ans plus tard. Mais ils n'ont pas vu Lucas en train de la fabriquer.
Et Albert Lucas, qui prétend avoir peint la copie du modèle et avoir travaillé sur la couronne de fleurs, il ment ? Pourquoi ?
Il semble, monsieur Gabory, que la meilleure garantie d'authenticité d'une œuvre d'art, à cette époque, c'était son pédigré. Pour le reste, on mettait en marche un certain nombre de critères, parmi lesquels les analyses physico-chimiques, qui n'étaient pas toujours satisfaisantes. De nos jours, subirait-on le même échec sur certains matériaux ?
Quand on est en présence d'une terre cuite, pour les périodes qui s'étendent, disons, de l'Antiquité à peu près le XVIIe siècle. La thermoluminescence donne des références, donne des éléments qui sont extrêmement intéressants et qui, lorsqu'ils sont positifs, ne sont guère contestables. Quand ils sont négatifs, on peut avoir des doutes de temps en temps, car on le sait, il peut arriver à une terre cuite d'être soumise à une seconde cuisson qui modifie totalement les résultats. Enfin, ça serait long à expliquer. Pour la cire, malheureusement, il n'y a pas de critère absolu. On peut déceler sa composition. Si on avait trouvé dans la flora, certains produits, comme par exemple ce qu'on appelle la cire du Japon, qui est en fait un produit d'origine végétale qui n'apparaît qu'au milieu du 19e siècle, évidemment, ça serait rédhibitoire. Mais si sa composition, et ce qui, je crois, est le cas, est plausible pour, disons, la période du 16e, 17e siècle, une telle composition peut aussi se retrouver au 19e, nous n'avons pas de critères absolus de jugement.
Au mois de mars 1909, dans le bureau de Bode, à Berlin, se trouvent une douzaine de personnes. Il y a des experts et des journalistes. Cela ressemble beaucoup à une conférence de presse. Sur un côté trône le buste de la Flora et, de part et d'autre, des reproductions de la photo de Lucas et du tableau qui a servi de modèle. On s'attend à une révélation qui va faire l'effet d'une bombe. Bode allume la mèche.
Messieurs, nous allons essuyer un terrible orage, mais je vous affirme que cette fois, nous ne serons pas les plus mouillés. Je vous prie donc de m'écouter un moment. Tout le malentendu vient du fait que Richard Lucas et Buchanan ne sont plus là pour témoigner, car Richard Lucas n'était pas un faussaire. C'est au contraire un artiste d'une parfaite conscience professionnelle. La Flora ne se trouvait pas à l'exposition universelle de 1851, alors qu'il y avait toutes les œuvres de Lucas. Pourquoi ? Parce que précisément, la Flora n'est pas une œuvre de Lucas, et qu'il était honnête. Alors pourquoi se trouvait-elle chez lui ? Pour une simple restauration. Vous trouverez ici les reproductions photographiques d'un catalogue prouvant que ce buste existait déjà en 1823. Lucas n'est pas l'auteur, mais le restaurateur.
Mais ce tableau a quand même été prêté à Lucas pour servir de modèle.
Oui, bien sûr, mais quand le buste est terminé, pourquoi Buchanan ne l'a-t-il pas acheté, puisqu'il l'avait commandé ? Il ne l'a pas acheté parce qu'il ne pouvait pas. Pourquoi ne pouvait-il pas ? Parce que cette œuvre n'était pas de son ami Lucas. Ça ne vous paraît pas logique ?
Mais pourquoi Albert Lucas affirme-t-il qu'il a vu son père sculpter cette œuvre ?
Parce qu'il l'a bel et bien vu restaurer cette œuvre. Et puis, dès que les journaux ont parlé de cette affaire et que la mémoire de son père s'est trouvée soudain glorifiée, il n'a pas voulu la replonger dans l'oubli. Il a menti pour honorer son père.
Les résultats de l'enquête confirmèrent cette version. Ils prouvèrent que les témoignages de Cuxet et de Lucas étaient entachés de mauvaise foi ou de partialité. 80 ans plus tard, des experts se posent encore des questions, car si Lucas et Buchanan avaient été parfaitement honnêtes, ils seraient allés annoncer l'authenticité de la statue à Lord Palmerston, au lieu d'attendre sa mort. Et puis, si Lucas avait été convaincu que le buste était du grand maître italien. Pourquoi l'a-t-il laissé pourrir dans son hangar ? Non, vraiment, il reste encore une énigme derrière ce sourire. Monsieur Gabory, en 1988, l'affaire de la Flora est-elle définitivement tranchée ?
Je n'affirmerai pas que la Flora n'a pas encore des partisans qui reconnaissent en elle un chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. C'est possible. Mais il y a quelques années, on la considérait volontiers comme une œuvre, au fond, sans grand intérêt, probablement un faux du 19e siècle, et que d'ailleurs, dans le catalogue du musée de Berlin, qui a dû paraître vers 1960, elle ne figurait pas. Actuellement, l'œuvre est exposée à Berlin. Elle est exposée dans une salle avec des œuvres qui sont plus tard que Léonard de Vinci, qui sont des œuvres de la seconde moitié du XVIe siècle. Et dans un contexte où, il faut le reconnaître, elle le supporte assez bien, le voisinage et la comparaison, c'est-à-dire le contexte de la sculpture maniériste italienne de la fin du XVIe siècle.
Mais si demain, on vient en grand secret vous apporter, à vous, en tant que conservateur en chef du département des sculptures au Louvre, donc, est-ce que, si on vient vous porter un buste de Léonard de Vinci, un autre qu'on aurait retrouvé, ou bien de Michel-Ange, qu'est-ce que vous faites ? Bon, bien entendu, il y a tout un système de vérification qu'on met en route.
De toute façon, si c'est en grand secret, déjà, je serais très méfiant. Les vérifications sont possibles. Tout dépend un peu de la nature de l'œuvre et de la nature du matériau. Mais je veux dire que j'essaierai de n'avoir préjugé a priori ni contre ni pour. Cet objet sera un objet d'étude. Encore faudra-t-il que le propriétaire accepte qu'on l'étude, accepte cette étude, ce qui n'est pas toujours le cas.
Si la France n'a joué dans l'affaire de la Flora qu'un rôle de spectateur, l'opinion publique française, les écrivains, les hommes politiques savaient de quel côté pencher leur cœur. Depuis 1871, l'Allemagne, c'était l'ennemi. Le danger de l'aigle impérial, les populations d'Alsace-Lorraine qui souffraient en silence n'attendaient que la revanche. Et en attendant une revanche armée, il n'était pas désagréable de savoir que l'Allemagne était en train de se ridiculiser aux yeux du monde artistique. Quelques journalistes français même n'hésitèrent pas à mettre de l'huile sur le feu dans cette querelle. Pourtant, aucun pays n'est à l'abri de ce genre d'incident. Une œuvre de grand maître qui disparaît puis réapparaît, parfois longtemps après, ça s'est vu. Et ça se verra encore, sans doute. D'ailleurs, 2 ans après cette affaire, en 1911, on volait la Joconde au Louvre. Décidément, Léonard de Vinci n'a pas de chance. Mais on pourrait multiplier les exemples, Jean-René Gabory.
Oui, il y a des œuvres dont on connaît l'existence et dont on peut penser qu'elles n'ont pas totalement disparu. L'un des cas les plus surprenants, il y a quelques années, ça a été la réapparition d'un fragment d'un tableau de Raphaël chez un particulier à Strasbourg qui possédait cette œuvre sans en connaître la valeur ni même la date. Oui, et qui l'avait obtenu de la façon d'ailleurs la plus légale, je dirais tout à fait hors des circuits habituels du marché de l'art. Bon, ceci dit, il fallait identifier que c'était un Raphaël, et un heureux hasard a fait que Madame Sylvie Béguin, qui était à ce moment-là conservateur au Louvre, soit précisément au moment où elle a vu pour la première fois la photographie de cette œuvre, en train de travailler sur Raphaël et de préparer à la fois une exposition et un cours à l'école du Louvre, et donc parfaitement dans le sujet, à identifier l'œuvre. Et elle nous a toujours dit sa joie quand, au laboratoire, la radiographie a fait réapparaître sous les repeints le décor architectural qui était derrière cette figure et qui confirmait entièrement son hypothèse. Il y a des œuvres comme ça qui effectivement disparaissent pendant très longtemps. À la fin du XVIIe siècle, le collectionneur Girardon possédait dans sa galerie une tête de Saint-Jean-Baptiste sur un plat, sculpture en marbre, qui était attribuée à Michel-Ange. Et les catalogues de vente successifs permettaient de suivre cette œuvre jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Et ensuite, elle disparaissait. J'espérais que cette œuvre n'avait pas été détruite et... Elle était en marbre, donc elle ne pouvait pas avoir été fondue comme un bronze. Elle ne pouvait pas pourrir comme un bois polychrome. Effectivement, elle a fait sa réapparition il y a 18 mois. Bon, ce n'est pas une œuvre de Michel-Ange, c'est une très belle œuvre, sans doute de la fin du XVIe siècle, et donc qui avait fait en quelque sorte le plongeon pendant pratiquement un peu plus de 2 siècles.
C'était le NRV France Inter plus de Léonard de Vinci, 3e épisode, l'affaire rocambolesque de la Flora. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on va finir la semaine avec un Léonard de Vinci ingénieur et scientifique. Je vous souhaite le bonsoir.